Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Sixtine. Dès son plus jeune âge, elle voulait prendre soin des gens. Oui, mais comment ? Après l'échec du concours de gendarmerie, elle s'orientera vers une carrière d'infirmière, puis une orientation vers le métier d'infirmière coordinatrice en EHPAD. Bonne écoute ! Bonjour Sixtine !
Bonjour Marielle !
Comment vas-tu ?
Ça va bien, merci. Et toi ?
Ça va très très bien, je te remercie. Je suis ravie de t'accueillir sur Compresse et Sparadra aujourd'hui. On va pouvoir discuter d'une énième facette du métier d'infirmier et d'infirmière. Voilà, je le dis souvent, mais le métier d'infirmier, au même titre que plein d'autres métiers médicaux, paramédicaux, est en pleine expansion, modification, évolution, et tu vas pouvoir nous prouver ça dans cet épisode. Donc je suis très contente de te recevoir, et pour commencer, je te laisse... te présenter, c'est la tradition.
Oui. Bon, du coup, je m'appelle Sixtine, j'ai 30 ans, je suis mariée et j'ai la chance d'être maman de deux merveilleuses petites filles. Et je suis infirmière diplômée depuis 2015.
Tu sais, j'aime beaucoup revenir sur la genèse du projet, voilà, pourquoi tu es devenue infirmière, etc. Je crois savoir que tes parents exerçaient cette profession également. Oui. Alors, comment s'est déroulée cette vocation pour toi ?
C'était pas du tout ce que j'espérais ou en tout cas ce que j'imaginais petite parce que voilà justement mes parents étaient dans le métier, j'en entendais parler tous les soirs en rentrant et je me disais je ferais surtout pas ça et je m'imaginais être gendarme.
D'accord.
je voulais protéger les gens, je regardais une série avec mon grand-père La Gendarmette avec Corinne Touzé et j'idéalisais vraiment le personnage et en tout cas le métier. Et donc, je me disais que ce serait ça. Et puis, j'ai quand même tenté le concours et j'ai essayé de rentrer dans la gendarmerie en vain. Et puis, il y a eu plein de choses dans mon parcours d'adolescent, etc., où je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, c'est infirmière. Enfin, mes parents m'y ont aidé, en tout cas, dans ce choix. Parce que avec le lycée, on partait, on accompagnait des gens pour le pèlerinage à Lourdes. Donc, il y avait un peu ce côté prendre soin, accompagner, etc. Et je ne me rendais pas compte que c'était là où j'étais le plus à l'aise. Je le faisais tellement spontanément que voilà. Et donc, dans mon cheminement, j'ai quand même fait mon concours gendarmerie. Ça n'a pas abouti. Et puis derrière, j'ai dit, mais il faut que je trouve quelque chose à faire quand même. Ce n'est pas évident. Et voilà, donc j'ai fait une classe prépa pour l'école d'infirmière parce que je ne m'imaginais pas du tout dedans. Et puis, ils proposent un stage au cours de cette classe prépa. Donc, je me suis dit, ça me permettra de faire ou non mon choix. Et ça l'a conforté. J'ai passé le concours dans trois IFSI différents et je l'ai réussi partout.
Super. Et ce stage était où d'ailleurs ?
Ce stage, je l'ai fait en rhumatologie.
D'accord, très bien.
Voilà. C'était deux semaines de stage, vraiment de l'observation pure.
Mais c'est pas mal, deux semaines. Ça laisse quand même le temps de se faire une idée du métier. Et je suis assez curieuse de savoir comment tes parents te parlaient du métier d'infirmier. Enfin, j'ai des amis, infirmières qui me disent, par exemple, si un jour j'ai des enfants, jamais je les inciterai à faire ce métier parce que c'est trop dur, parce qu'on n'est pas assez payé pour, pour mille raisons. Est-ce qu'ils t'en parlaient positivement ?
Ils avaient un peu les deux... mon papa était, il est toujours infirmier anesthésiste, donc il y avait le côté stressant du métier, il travaillait sur des greffes, des choses comme ça, donc je ressentais quelque chose de très stressant, très oppressant, pas forcément très épanouissant. Ma maman avait plus un côté épanouissant dans la prise en soins, elle avait un poste, elle avait plutôt évolué dans sa carrière, et j'avais un peu les deux, et en même temps, ils avaient aussi ce discours de ne fais surtout pas ce métier, on a des conditions de travail qui sont quand même très difficiles, et on peut pas bien le faire, parce que justement, on n'a pas tous les éléments pour le faire correctement, donc ils imaginaient qu'il y avait d'autres métiers qui étaient peut-être plus adaptés, et voilà. Donc, en tout cas, ils n'y ont pas encouragé initialement, quoi.
C'est ça, ouais, c'est ça. Et c'est marrant parce que du coup, dans ton parcours, ce qu'on entend, c'est qu'il y avait quand même la volonté de prendre soin des personnes.
Oui.
Alors, par le soin ou non, avec ce métier de gendarme, mais c'était quand même le dénominateur commun dans ce que tu envisageais pour ta carrière.
Ah oui, exactement. Ça fait partie de mon tempérament. J'ai toujours été comme ça, de l'école à encore aujourd'hui, où même à l'école, je m'occupais des autres. Donc, voilà. Donc, on me disait, tu vas finir bonne sœur ou assistante sociale. Parce que... il fallait que je trouve le bon métier et je l'ai trouvé et je m'épanouis complètement là-dedans.
Bon, super. Alors, ta formation, du coup, démarre un an après cette année de préparation au concours. Et comment ça se passe, du coup? Est-ce que ça, voilà, on reste dans le même, dans la même lancée? T'es toujours aussi épanouie?
Oui, la formation se passe bien. Je suis très épanouie lors des stages. Je me rappelle toujours de mon début de formation où il y avait une cadre formatrice qui avait dit il faut prendre en main votre formation, vous êtes acteur de votre formation, et ça a résonné en moi et j'ai pris les choses en main. Alors le premier stage a été plus ou moins guidé, mais tous les autres, c'est moi qui les ai cherchés et trouvés.
D'accord.
Et à cette époque-là aussi, c'est l'époque où je rencontre mon mari qui est installé à l'opposé de là où je vis, et je me dis, mais est-ce que je peux pas faire des stages là où il vit? Et donc c'est ce que j'ai fait. Moi j'étais dans le sud-est, lui dans le sud-ouest, donc voilà, et du coup j'ai pu dégoter des stages un peu dans des endroits différents, et ça m'a permis d'avoir un parcours très très intéressant. Et ça a débouché aussi sur le fait que j'ai changé d'IFSI pour ma dernière année. Voilà, donc pour un rapprochement de conjoint, et ça a fonctionné. Et donc du coup, c'était chouette et c'était très enrichissant, puisque j'ai vu deux écoles différentes, deux modes de formation, etc.
Donc un transfert de dossier, on fait juste une petite aparté, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant de savoir que c'est quelque chose qui est possible, voilà, en cours de formation. J'imagine que sur le plan administratif, ça doit être assez lourd pour faire les démarches.
Mais pas tellement, en fait, il a fallu justifier que je vivais avec lui.
D'accord.
Donc c'était vraiment du rapprochement de conjoint, donc ça a fait l'objet de courriers, d'échanges, donc pour savoir si l'IFSI pouvait m'accueillir. L'IFSI en question, en plus j'avais passé mon concours là-bas à l'époque aussi, donc ils avaient déjà un prémisse de dossier concernant, donc non, j'ai pas trouvé la démarche trop lourde au final. Ça,
bon,
voilà,
tant mieux.
Juste un courrier et puis justifier que j'étais bien avec lui, et que, voilà.
Bien sûr. Et au niveau de l'ambiance, même de la façon dont les cours étaient prodigués, etc., t'as trouvé des similitudes ou t'as trouvé un mode de fonctionnement très différent dans cette autre école, pardon?
Alors c'était plutôt différent. Donc là, dans le sud-est, j'étais sur une structure de la Croix-Rouge, donc grosse structure, grosse promo. Et après, donc, on a débarqué, donc c'était sur Lyon, la deuxième IFSI. Et là, c'était une toute petite IFSI. On était 30 étudiants, donc ambiance plus familiale, tout le monde se connaissait. Bon, j'ai pas eu de mal pour l'intégration, mais voilà, c'était agréable aussi de voir un autre mode de fonctionnement, et surtout pour la troisième année où c'était assez enrichissant, puisqu'ils montaient plein de petits projets, de dossiers, de travaux d'études, etc. C'était un petit peu plus poussé et plus personnalisé. Donc au final, c'était très à propos, et sur le parcours, c'était chouette.
Bon, bah super. Et pendant ces 3 ans de formation, est-ce que tu arrives à toucher du doigt un secteur d'activité, quelque chose qui te plaît plus qu'un autre?
Non, je me sens à l'aise vraiment dans tous mes parcours de stage. J'arrive à m'adapter à chaque fois, je me sens à l'aise partout. Mais je réfléchis, parce qu'à l'époque, c'était quand même, on savait que quand on sortait de promo, on aurait du mal à trouver du travail, ce qui est assez dingue de dire ça aujourd'hui. Mais donc je réfléchissais lors de ma troisième année à qu'est-ce qui serait le plus adapté, vers lequel je pourrais avoir le plus de débouchés, etc. Et j'ai pensé à une spécialité qui était la dialyse. Donc j'ai choisi de faire mon stage pré-pro en dialyse.
D'accord.
En vue de me faire embaucher, c'était un peu une stratégie, et ça a fonctionné, et j'ai été embauchée tout de suite à la sortie de diplôme, et j'ai eu un CDI rapidement dans Réa Rare à l'époque, donc voilà,
c'est
donc,
sûr.
C'était un peu l'objectif, voilà.
Moi j'ai été diplômée en 2010, et pareil, le marché de l'emploi ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui, même si c'était quelques années avant toi, et on chérissait vraiment les offres en CDI parce que ça courait pas les rues.
Exactement.
Et finalement ce stage pré-pro, voilà, il porte bien son nom, on essaye de le faire dans un service, dans un secteur dans lequel on a envie d'évoluer plus tard, et donc pour toi ça se confirme, tu fais ce stage pré-pro en dialyse, et ensuite tu arrives à te faire embaucher dans le service, donc génial. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce qu'est la dialyse? On en a encore jamais parlé ou si peu sur le podcast.
Oui, alors la dialyse, c'est un service où ça permet aux patients qui sont insuffisants rénaux d'épurer leur sang grâce à des machines qu'on appelle des générateurs. Je simplifie, et en gros, ce sont des gens qui viennent deux, trois fois semaine, voire un petit peu plus suivant s'ils ont des pathologies ou non associées. Et donc voilà, c'est un milieu un peu particulier, un peu fermé, où on voit toujours les mêmes personnes, on a différents abords, on a des fistules, donc c'est des, l'abouchement entre une artère et une veine et sur lequel on peut brancher les patients avec des grosses aiguilles, ou alors ils ont des cathéters. Enfin voilà, il y a plusieurs types d'abords. Et il y a l'aspect technique aussi qui est hyper intéressant avec l'utilisation de générateurs. Il y a plusieurs types de générateurs qui proposent des épurations du sang un peu différentes. Et voilà, et donc c'est c'est en vue d'une greffe souvent pour ces gens-là. Donc voilà, c'est un maintien en attendant d'avoir la greffe rénale possible.
Voilà. Qu'est-ce qui te plaisait le plus dans ce service ?
Alors, il y avait le côté relationnel avec les patients dans le suivi. C'est des gens qu'on voyait tous les deux jours. Donc il y avait un lien qui se créait dans la prise en soin. Puis on voyait l'évolution, on essayait de monter des projets pour eux. Et puis il y avait l'aspect technique aussi, avec l'utilisation des générateurs, avec les nouvelles technologies qui arrivaient. Donc c'était hyper intéressant à ce niveau-là.
J'imagine. Alors, tu es restée combien de temps dans ce service ?
5 ans.
5 ans, ok.
Ouais, 5 ans dans ce service, avec plus ou moins d'évolution en interne, puisqu'il y a des gens qui sont plus ou moins fragiles. Donc, il y a 3 niveaux. Il y a de l'autodialyse, de la dialyse médicalisée et du centre lourd. Donc, c'est vraiment... et j'ai pu faire tous ces niveaux-là. Et il y a une partie qu'on appelle... Enfin, ils appelaient ça apprentissage. Donc, c'est des gens qui arrivent pour dialyser, mais qui ont envie d'être autonomes parce qu'il y a la possibilité de dialyser à domicile. Donc, on accompagnait ces gens-là pour avoir cette option-là.
Avec des équipes spécialisées qui se déplacent du coup chez eux pour faire ces
exactement, dialyses. Pour mettre la mise en place. Mais après, ces gens-là se piquent tout seuls, ils se branchent à domicile. Donc voilà, il y avait un accompagnement assez particulier pour qu'ils soient autonomes, pour qu'ils aient plus ce côté contraignant de venir dans l'établissement, venir dialyser, qu'ils soient, s'ils rentrent de l'or, ils pouvaient continuer de travailler, rentrer chez eux, ils dialysaient le soir ou le matin, enfin c'était propre à chacun, et donc on leur permettait de mettre ça en place.
Parce qu'il faut le dire, c'est une pathologie, enfin... plusieurs pathologies qui sont très très lourdes, des gens qui se déplacent 2-3 fois par semaine à l'hôpital pour sa dialyse qui dure plusieurs heures à chaque fois, c'est fatigant,
oui.
En plus du déplacement. Pour des gens par exemple qui souhaitent partir en vacances, il faut trouver aussi des centres de soins qui sont capables de vous recevoir à l'autre bout de la France par exemple. Ça demande toute une logistique et ce sont des pathologies qui sont très très compliquées à prendre en charge au quotidien. Alors 5 ans en dialyse, et alors qu'est-ce qui motive le fait d'avoir des envies d'ailleurs?
Un déménagement pour suivre mon conjoint, donc un nouveau déménagement, et puis je refais un petit peu de dialyse dans la nouvelle affectation, mais dans un centre lourd associé avec de l'AREA, et plus ou moins sorti de Covid, et là je me dis mais j'ai plus envie de travailler comme ça, ça ne me correspond plus, je suis très stressée, je vais au boulot, la boule au ventre, et donc voilà, j'ai pas envie d'avancer là-dedans, j'ai pas l'impression de faire mon boulot correctement, et puis très contraignant, j'avais beaucoup de trajets pour y aller, etc. Donc je me dis, il faut que le marché de l'emploi est tel que je peux peut-être trouver mieux, et donc je me mets à chercher. J'essaie de trouver déjà au niveau géographique, plus proche du domicile, et puis j'ai des envies d'encadrement d'équipe, de management. Donc, je me dis que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je vois une offre d'emploi sur Indeed qui correspond à l'ensemble de mes critères. Je postule et donc ça fait l'objet de 3 entretiens et au bout desquels je suis retenue.
Super.
Et donc j'intègre un établissement, un EHPAD, pour lequel c'est un EHPAD donc, qui est quand même en déficit. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a eu un changement de direction, etc. C'est un EHPAD associatif à but non lucratif. Et je me dis, je vois le potentiel en fait qu'il y a, et je me dis en fait qu'il y a tout à faire. Donc c'est hyper intéressant d'arriver à ce moment-là, même si on voit que l'établissement est en souffrance, les salariés aussi, etc. Je me dis que c'est quand même, ça peut être un sacré challenge, et donc j'accepte. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à reformer des équipes, à avoir des équipes un peu plus solides. Il faut savoir que dans les EHPAD, on accepte des aides-soignants qu'on appelle faisant fonction. Donc ce sont des gens qui acceptent le métier, mais qui n'ont pas la formation pour. Donc ils travaillent avec le cœur, mais des fois ça suffit pas forcément, il manque un peu de technique. Donc je suis dans un premier temps là pour les accompagner, pour les aider, les former. Et puis il y a des évolutions, il y a beaucoup de démissions, donc il y a un gros renouvellement d'équipe, il y a un recrutement à faire aussi derrière. Il y a une vraie période de crise à ce moment-là où j'occupe un peu tous les postes, aide-soignante, infirmière, pour pouvoir continuer à prendre soin des résidents. Parce que là aussi, ça change. On est dans du médico-social, on n'est plus dans l'hospitalier, donc on ne parle plus de patients, on parle de résidents et on travaille chez eux.
Eh oui, c'est leur lieu de vie.
C'est leur lieu de vie, donc c'est leur maison. Donc il y a ça aussi. Moi, je n'avais jamais connu cet univers-là, donc j'apprends aussi à travailler dans cet univers. Et voilà, et petit à petit, on arrive à recruter d'autres personnes, l'équipe se reforme et on part de zéro, une nouvelle direction arrive et on avance, et plutôt dans le bon sens, plutôt positivement, avec toujours en tête l'objectif, qu'est-ce qui est bon pour les résidents. Et on avance tous dans ce sens-là. Donc voilà, c'est un sacré challenge et donc c'est assez chouette, mais... toujours est-il que je n'ai pas de formation pour occuper ce poste-là, puisque voilà, je suis aussi une faisant fonction d'infirmière coordinatrice, et donc je cherche des formations qui pourraient correspondre à ce que je fais, ou en tout cas qui pourraient m'aider à avoir des outils un petit peu plus, parce que pareil, je travaille aussi avec le cœur, mais des fois ça fait pas tout.
Et oui, ne serait-ce que cette notion de management d'équipe, elle est pas du tout abordée pendant les études d'infirmière.
Non,
j'imagine qu'en dialyse c'est quelque chose que tu avais peut-être survolé éventuellement, mais peut-être
non, parce
beaucoup
que
moins.
Moi, en dialyse, on gère des patients, on va gérer des mouvements de patients, mais c'est pas du tout du management d'équipe, donc c'est vraiment quand même complètement autre chose. Donc voilà, donc du coup je cherche une formation, et Croix-Rouge Formation justement en propose une qui s'appelle IDEC CEPAS, c'est un coordinateur de parcours et d'accompagnement en soins, et il y a trois blocs et ça regroupe exactement ce que je fais dans mon quotidien. Donc il y a un bloc sur du management, un bloc sur les ressources humaines et un autre bloc qui permet d'avoir des outils pour pouvoir monter des projets au sein de l'établissement dans lequel on travaille.
Okay.
Parce qu'il y a tout un process autour de ça pour avoir des financements, etc. Donc voilà, donc du coup, je trouve cette formation, je m'y inscris et je viens de la commencer. Enfin, je l'ai commencé là en septembre. Donc,
super.
Donc c'est chouette, ça fait une continuité dans mon parcours et dans mon poste. Voilà.
Donc financé par ton employeur.
Exactement.
Et comment se déroule la formation ? Est-ce que c'est sur des journées qui sont dédiées à ça pendant ta semaine ? On organise ton planning autour de ça ?
Exactement. C'est par mois, je suis absente 3 jours sur mon poste.
Okay.
Donc voilà, et c'est 3 jours complets pendant lesquels je suis à la formation. Après, c'est assez court au final, puisque c'est de septembre à mars. C'est assez dense et plutôt court.
C'est ce
donc
que j'allais
pas...
dire, c'est dense, intense.
Oui, exactement. Mais bon, ça me permet d'allier les deux, voilà, de continuer à avoir mon poste tout en ayant cette formation-là. Donc, c'est plutôt complémentaire.
Quand tu as postulé pour ce poste d'infirmière coordinatrice, l'intitulé du poste, c'était infirmière coordinatrice sur l'annonce.
Oui. Exactement.
Okay. Ouais. Et les personnes qui t'ont recruté ne voyaient pas d'objection à ce que tu n'aies pas fait la formation dans un premier temps ?
Non, en fait, il y a eu des objectifs de poser lors de l'entretien. Ils m'ont demandé si je me sentais capable de faire tout ça. Il y a toujours une période d'essai aussi dans un début de poste comme dans tous les postes d'ailleurs. Et donc voilà, moi j'ai accepté le défi et c'était pas gênant. J'ai justifié aussi que pendant mon parcours, il y avait eu des choses que j'avais pu faire dans mon tempérament, je me sentais capable de le faire. Donc
Bien sûr.
Ça n'a pas été une obstruction en tout cas.
Oui, j'imagine que pendant les entretiens, on a tout le loisir de prouver que même si on n'a jamais été dans ce secteur d'activité et qu'on n'a jamais managé d'équipe, on a aussi toutes les qualités pour le devenir.
Exactement, c'est ce qui s'est passé.
Bon, alors du coup, tu te retrouves, toi, à manager des équipes.
Oui.
Qui ne sont pas, parfois pas formées, en étant toi-même au départ non formée.
Oui.
J'imagine un sacré défi émotionnellement. Ça s'est déroulé comment pour toi ?
Ça a été très difficile dans le positionnement, en tout cas au début. Ce que j'ai voulu faire, comme je découvrais le milieu médico-social, j'ai voulu faire une immersion pendant presque 2 mois auprès des aides-soignantes et des infirmières aussi, pour savoir un peu comment ça fonctionnait, quelles étaient les attentes, quel était le déroulé de journée, et en fonction des différents postes aussi. Et ça m'a permis, voilà, de voir réellement la charge de travail et voilà, comment ça fonctionnait.
Et ça, c'était à ta demande, du coup ?
Oui. Oui, ça, c'était à ma demande. C'était possible, puisqu'à l'époque, il y avait une cadre de santé qui était au poste et qui pouvait gérer tout l'aspect planning et gestion du personnel, qui me secondait aussi dans ce poste-là. Et j'ai eu cette chance-là d'être doublée par ce cadre de santé pendant presque 6 mois, qui après a passé le relais et j'ai pris sa place progressivement. Mais voilà.
Qu'est-ce que tu as appris du coup pendant ces 2 mois d'immersion ?
Alors j'ai vu l'aspect physique qui n'était pas toujours évident, mais qui pouvait être contré par de la formation et l'utilisation du matériel correctement. Mmh. Parce que les gens, des fois, ils ont envie de faire bien, de faire à la demande, etc., mais pas forcément bien pour eux. Donc là, il y a des besoins en matériel, il y a des besoins en formation. Donc ça m'a permis d'identifier un peu les points forts et les faiblesses du métier.
T'as des exemples, par exemple, de choses que tu as vues qui partent peut-être d'une super bonne intention, mais qui sont vraiment mauvaises pour la santé du salarié, notamment ?
Par exemple, il y a des résidents qui pensent qu'ils ont des points d'appui, qui vont pouvoir se lever tout seuls, qu'il suffit de les prendre dans les bras. Sauf que ces personnes-là, ben, des fois, elles sont soit en surpoids, soit les points d'appui, elles ne les gardent pas très longtemps. Et c'est ni bon pour le résident, ni bon pour le soignant en termes de sécurité. Donc là, il y a du matériel qui existe, on appelle ça des verticalisateurs, qui permet quand même de garder le point d'appui à une certaine autonomie, mais sans mettre en danger ni l'un ni l'autre. Mmh. Donc voilà, il y a des volontés, parce que certains résidents ne se rendent pas compte où ils ont l'impression de pouvoir toujours faire ou d'être capable de faire, et donc ils ont envie. Donc c'est difficile aussi là, en tant que soignant, de trouver le juste milieu, de répondre à ce besoin-là, et donc voilà, et tout ça fait l'objet de discussions d'équipe. C'est des choses qu'on rencontre quotidiennement. Qu'est-ce qui est le mieux pour lui, et puis dans sa prise en soin, pour pas qu'on s'épuise derrière non plus.
Voilà. Oui, c'est se mobiliser à la demande du patient, mais à quel prix aussi.
Oui.
Sans parler de la santé du soignant qui s'en occupe, mais aussi surtout pour la santé du résident, quoi. C'est vrai que on est toujours plein de bonnes intentions, et puis les personnes sont volontaires souvent, et puis parfois dans l'équation il y a des calculs à faire un peu différemment.
Exactement.
Qu'est-ce que tu as découvert d'autre du coup pendant ces 2 mois ?
J'ai vu aussi un épuisement de la part des infirmiers, quand on se dit qu'il y a une infirmière qui peut être seule pour gérer 96 résidents.
Oh là là.
Et je me dis, mais comment on peut faire son travail correctement ? Alors, il y a de la distribution de traitements, il y a des pansements à faire, et puis il y a du suivi derrière, c'est-à-dire des prises de rendez-vous, etc. Et tout ça, en fait, à cause d'un manque de moyens, parce qu'il n'y a pas assez de financement ou parce qu'on ne trouve pas les professionnels pour occuper les postes. Et je me dis, c'est quand même hyper dur d'exercer dans ces conditions-là. Et qu'est-ce qui peut être mis en place pour améliorer ça ? Sachant que le recrutement reste toujours quelque chose de difficile. donc voilà, ça c'est des choses qui m'ont frappé et que j'ai moi-même vécu, puisque je me suis retrouvée à ce poste-là seule, et ça a été hyper difficile. On a le sentiment d'être maltraitant, et en même temps je pense qu'il faut qu'on relativise aussi, on fait du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on nous donne. Là où j'ai trouvé le côté plutôt positif, c'est qu'il y a une vraie solidarité. Alors déjà de la part des résidents, mais de la part des autres soignants, il y a une vraie cohésion d'équipe. Et quand ça, c'est vraiment instauré, en fait, on peut avancer et on peut arriver à faire des choses correctes.
Entraide vraiment dans l'équipe, quoi.
Ouais. Et c'est là où c'est le plus important. Ça se cultive, hein. C'était pas spécialement ancré initialement. Ça se cultive, ça fait l'objet de réunions, et là c'est quelque chose qui commence à être ancré, donc je trouve ça plutôt positif.
Moi j'ai travaillé dans des services où on divisait le nombre de patients par infirmière le matin. Mm-hmm. Donc mathématiquement chaque infirmière avait le même nombre de patients. La réalité des choses, c'est que c'est pas la quantité qui compte, hein, c'est surtout le détail des soins, etc. Et chaque infirmière repartait faire son tour, voir ses patients, et il n'y avait jamais l'entraide de se dire, si j'ai fini avant ma collègue, je vais l'aider pour voir ce dont elle a besoin.
Ouais.
Et ça fait partie de ces petits détails qui changent une journée de travail.
Oui, c'est ça. Ça, c'était un peu le côté... Le travail était tellement pénible pour certains qu'une fois qu'ils avaient fini leur secteur, entre guillemets, il n'y avait pas de regard autour, quoi.
Ouais.
Donc ça, c'est des choses qui s'instaurent, qui se travaillent.
Ça peut s'expliquer par plein de paramètres, mais en tout cas, il faut travailler là-dessus pour pouvoir faciliter les choses, c'est sûr. Il y a de ça... Alors, tu vas me reprendre sur les dates parce que je ne suis pas certaine, mais un an ou un peu plus d'un an ou un peu moins d'un an, il y a un scandale qui éclate dans les EHPAD, avec une portée médiatique assez énorme. Comment tu l'as vécu déjà toi personnellement, et puis après au niveau de ton travail ?
Alors, moi, j'ai trouvé ça très, très violent. Je l'ai regardé, ce reportage. Ça m'a émue de voir ça. J'ai trouvé que les médias grossissaient un petit peu trop les traits, en tout cas, sur certaines choses. Voilà, c'est puis faire d'un cas une généralité. J'ai trouvé ça hyper dur. Et ça s'est ressenti au niveau de l'EHPAD, au niveau des familles, qui ont été plus dans la revendication et sur des situations pas forcément justifiées. Donc ça a été un vrai coup dur, surtout que à l'époque où ça s'est passé, on manquait également de personnel. Et donc voilà, ça a un peu majoré tout ça, ça a été assez compliqué. Alors que la réalité est telle que en fait, on fait du mieux qu'on peut avec les moyens que l'on a, et on a toujours à cœur d'être sûr que ça se passe bien pour le résident. Et ça, c'est reste une vérité. Donc ça a été quand même un passage assez difficile. Il a fallu, il y a eu un gros travail de communication auprès des résidents, auprès des familles surtout, autour de ça pour leur, en fait, la transparence, c'est ce qui permet d'avancer le mieux, leur dire que voilà, ben, écoutez, là, oui, on est en difficulté, il manque 4 aides-soignants ce matin, donc c'est-à-dire la moitié de l'effectif. Donc il y a des choses qui vont se passer qui sont pas l'idéal pour nous, typiquement. On va faire le choix de ne pas lever une personne qui est un petit peu trop lourde. On la lèvera le lendemain, mais pas ce jour-là, parce qu'en fait, on n'a pas les moyens humains de prendre en soin cette personne correctement. En restant transparent, ça a permis un peu d'apaiser tout ça, notamment auprès des familles, auprès des résidents. Mais ça a été un gros travail et ça a été quelque chose d'assez difficile, enfin, en tout cas moralement. Voilà, il y a eu des retours, il y a eu des mots, il y a eu des phrases qu'on entend et qui font mal alors on essaye de faire de notre mieux en tout cas. Donc c'est pas toujours évident.
C'est sûr. Et puis la colère, du coup, se place peut-être pas sur les bonnes personnes, ni au bon moment, ni sur la bonne journée. Est-ce
Exactement.
que toi, en tant qu'infirmière coordinatrice, tu es l'interlocuteur numéro un? Alors bien sûr, les aides-soignantes, les infirmières sont là, mais quand il y a besoin de parler à un membre de la direction, c'est à toi qu'on s'adresse?
Oui, c'est moi en premier lieu, et en fait on s'adresse plutôt à moi quand ça ne va pas d'ailleurs en
Bien
général.
sûr, ouais.
Donc, et c'est tant mieux parce que les équipes sur place ont besoin d'être protégées aussi au quotidien de certaines choses. Et moi je temporise parce que bien souvent les familles voient un instant T, ont l'impression que tout est terrible et après on reprend ensemble et en fait je leur apporte un nouveau regard sur certaines situations. Et ça permet de temporiser, et ça permet aussi aux équipes de ne pas prendre toute cette colère qu'il peut y avoir parfois, ou tous ces mots qui peuvent être hyper violents alors que les personnes font du mieux qu'elles peuvent. Donc voilà, donc c'est vrai que oui, je suis l'interlocutrice privilégiée auprès des familles pour ce genre de choses.
Je me demandais à quoi ressemblaient tes journées parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas encore fait le tour de tout ce que tu fais et il y a quand même énormément, énormément de tâches.
Oui.
Moi déjà, j'ai envie de te dire bravo pour ces 2 mois d'immersion qui n'étaient absolument pas prévus dans le programme et que tu as tenu à faire. Franchement, je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on se rend compte de la réalité du terrain.
Exactement,
Donc
ben oui.
bravo pour ça. Dans ton mail, tu m'avais écrit, un poste d'IDEC, c'est aussi du recrutement quand plus personne ne veut exercer ce métier par vocation, mais seulement pour l'aspect financier. C'est la gestion de planning avec un turnover quotidien, la gestion budgétaire des soins dans un établissement déficitaire, l'accompagnement, la formation du personnel et le lien avec les familles. Est-ce que ça résume
Oui, complètement.
bien
C'est
tes journées?
mon quotidien. Mon quotidien, c'est le matin, j'arrive, je dis bonjour à mes équipes et j'évalue qui est là, qui est pas là. Alors, ça s'est calmé, mais il y a eu des matins, voilà, on peut avoir jusqu'à 4 personnes en moins. Donc là, il faut trouver des solutions, il y a des priorités, donc il faut pouvoir manager un petit peu tout ça. Voilà, et après, il y a une partie recrutement. Quand voilà, il y a des postes vacants, il faut trouver des personnes, des IDE, des aides-soignantes, des faisants fonction, et il faut arriver à identifier les bonnes personnes qui vont pouvoir être porteurs, qui vont pouvoir bien prendre soin des résidents, et qu'ils aient la formation ou non. Au final, des fois, on en vient à faire des choix où la formation ne prime plus forcément. Mais derrière, il faut pouvoir s'assurer de les former, parce que c'est pas tout d'accepter ces personnes-là. Il faut pouvoir leur apporter un objectif, une vision sur leur prise de poste. Et puis, c'est tellement valorisant de se dire que voilà, ils accèdent à un poste, mais derrière, on leur assure une formation, une évolution. Et donc, c'est ce qui a fonctionné et c'est ce que je mets en place quotidiennement. Alors, je ne le fais pas toute seule, hein. Je travaille en collaboration. Donc, il y a forcément une direction, il y a une responsable RH, il y a une responsable logistique. Enfin, voilà, c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire avec laquelle on avance dans ce sens, en tout cas.
Ces personnes sont au niveau d'un siège éloigné de toi ou elles sont physiquement dans le même établissement ?
Non, elles sont physiquement dans le même établissement.
Ouais. D'accord.
On a un pôle d'encadrement et on tend vers les mêmes objectifs.
Donc toi, le matin, tu arrives, donc tu salues tes équipes, tu fais le point sur, la charge de travail et les personnes présentes ce jour-là. Et la suite des choses, c'est quoi ?
La suite des choses, après j'ai un petit peu d'administratif, de la gestion de budget, des commandes de matériel, donc de matériel spécifique. Alors je suis épaulée par une psychomotricienne qui m'aide justement pour, parce que voilà, ça reste un métier aussi, donc pourquoi un verticalisateur, pourquoi un lève-personne, est-ce qu'on le prend, etc. Donc il y a des évaluations qui sont faites auprès des résidents. La commande de protection, voilà. Il y a plein de petits éléments comme ça, de gestion, il y a une partie administrative, et puis il y a une partie, voilà, il faut trouver des formations, organiser des formations et remplacer les gens qui partent en formation. Donc voilà, il y a toutes ces petites choses-là à coordonner.
Ces formations, elles sont faites auprès des instituts de formation en soins infirmiers ou pour les aides-soignants ?
Oui, exactement. Donc, soit auprès des IFAS, soit l'ARS a proposé des formations un peu plus... condensé en 70 heures pour pouvoir apporter un peu de théorie, un peu de pratique. Donc, c'est quand même déjà un début. Ou alors des formations en interne parce que, par exemple, pour accompagner en soins palliatifs. Donc là, c'est nous qui le proposons. On signe des contrats avec des équipes mobiles de soins palliatifs qui interviennent au sein de l'établissement pour pouvoir former les équipes parce que ça fait aussi partie du métier, quoi. Donc,
voilà. Et tu ressens une demande de la part des équipes ?
Oui, un investissement, une demande, et pour l'instant, j'ai beaucoup de retours positifs, et ça crée une dynamique au niveau de l'équipe, une motivation, ils disent, bon, quand est-ce que c'est la prochaine étape, ou alors j'ai appris ça, et voilà, donc c'est plutôt, c'est très positif d'avoir ce genre de réaction, et c'est ce qui est attendu en tout cas, et c'est ce qui fait que les gens restent aussi.
Donc, ouais,
là,
c'est vrai.
L'équipe se stabilise, et je vois que c'est en majorité aussi pour ça.
Et face à des équipes en souffrance, pour l'avoir vu de mes yeux, la demande de formation, elle est très forte. Et quand c'est vu par les yeux de la direction, par exemple, c'est souvent sous-estimé. On s'imagine que les gens sont démotivés, n'ont pas envie forcément d'apprendre plus de choses. Et en fait, c'est faux. La formation, elle est hyper, hyper valorisante et elle est très demandée.
Oui, il n'y a pas que le contenu de la formation au final qui est intéressant, c'est souvent lors des formations, ils rencontrent d'autres personnes, donc il y a du partage d'expérience et ça fait partie aussi de l'enrichissement de tout ça et les gens reviennent de la formation, ils ont d'autres propositions, ils ont une autre dynamique et en fait c'est hyper porteur pour chacun, pour la personne, pour l'établissement, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'aspects puis ça permet aussi de couper de son quotidien et de revenir avec un nouveau regard, donc c'est plutôt encourageant aussi.
Bon, alors pour toi, ça fait un an maintenant que tu occupes ce poste.
Exactement.
Alors quel est ton ressenti? C'est peu un an, hein, mais est-ce que tu regrettes cette décision? Est-ce que tu es contente d'avoir sauté le pas, d'aller dans cet établissement qui était très différent de ce que tu avais fait auparavant?
Alors un an, c'est un sacré cap, surtout quand je fais le bilan de l'année qui s'est passée, de tout par toutes les émotions et tout ce qui s'est passé cette année-là.
Ouais, ressenti 10 ans.
Oui, voilà, c'est un peu ça. Quand on regarde durée de vie d'une infirmière coordinatrice entre 1 et 2 ans, donc j'ai déjà passé un cap.
J'ai déjà fait la moitié.
Mais je suis plutôt sur quelque chose d'encourageant. Je me dis que j'ai bien fait. Je me sens en fait chanceuse finalement d'avoir été acceptée à ce poste-là parce que j'ai énormément appris. Énormément appris, plein de choses qu'on n'apprend pas forcément à l'IFSI. Et humainement parlant aussi, j'ai un quotidien qui est quand même très agréable. Je rentre dans un établissement, alors il faut se dire qu'il accueille des prêtres et des sœurs. Donc le matin, c'est bonjour mon père, bonjour ma sœur. C'est quand même assez particulier. On travaille dans un cadre qui est quand même magnifique. Donc voilà, c'est top. Et puis, ce relationnel, voir cette motivation qui naît des équipes, cette construction, Donc non, je regrette pas et j'ai envie de poursuivre là-dedans parce que je trouve ça très très enrichissant. Voilà.
Super. Bon, alors voilà, c'est parti pour quelques mois de formation très dense, du coup, vu que ça se déroule que sur quelques mois. C'est une formation qui... Je suis curieuse, t'as vu.
Oui.
C'est une formation qui est certifiante, j'entends derrière.
Oui.
Ça fera partie de ton bagage d'études, quoi.
Voilà, oui, là, c'est une formation qui est reconnue. C'est la 3e promotion. Là, je fais partie de la 3e promo. Et donc elle est certifiante et reconnue. Et donc, Donc oui, après, ça sera ancré dans mon CV et ça sera toujours un plus, voilà.
C'est super. Bah écoutez, s'il y a des infirmiers, infirmières qui nous écoutent et qui ont des envies de reconversion, voilà, une nouvelle corde que vous pouvez ajouter à votre arc. On a parlé de l'infirmière scolaire, de l'infirmière en santé en travail, mais il y a plein de domaines d'exercice qui existent dans l'extra-hospitalier.
C'est la chance qu'on a d'exercer ce métier et ouais, d'avoir toutes ces possibilités, c'est quand même assez dingue.
C'est sûr, c'est sûr. Bon, bah génial. Merci beaucoup, Sixtine.
Merci à toi.
On va finir avec le petit portrait chinois pour en savoir encore plus sur toi. La première question, que dirais-tu à la Sixtine d'il y a 10 ans ?
Eh ben vas-y, fonce, t'es sur la bonne voie, puisque c'est à peu près là où je suis rentrée à l'école de formation. Donc oui, vas-y, continue, c'est ça, c'est bon, tu t'es pas trompée.
Ça aurait fait du bien de l'entendre à l'époque, j'imagine. question suivante, plutôt cantine ou lunchbox ?
Plutôt cantine, on a un restaurant quasiment là où je travaille et la cuisine est excellente, donc je ne dérogerai pas à ça.
Et c'est peut-être l'occasion aussi de discuter avec les équipes, j'imagine, sur le moment du repas ?
Alors, on est plutôt avec l'équipe d'encadrement, on est un peu moins avec les équipes, c'est plutôt l'équipe d'encadrement qui se retrouve à ce moment-là, mais en tout cas, voilà, c'est un moment pour se poser, souffler, puisque en général, on est un peu dans tous les sens, chacun de son côté, donc voilà, c'est ouais. Un bon moment aussi.
Ça permet de parler d'autre chose que de travail aussi, c'est
bien. Exactement.
question suivante, alors je pense que tu auras beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que tu as appris pendant l'exercice de ta profession et que tu n'avais pas appris pendant tes études ?
Déjà, ne serait-ce que le management d'équipe, c'est pas quelque chose qu'on évoque, donc il y a toute cette partie-là, la partie aussi recrutement, voilà, gestion RH, et puis toute la gestion, organisation, de planning, voilà. C'est toute cette partie-là qui s'apprend certainement voilà, donc dans d'autres formations, mais en tout cas pas à l'UPSI.
Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que pendant les études d'infirmière, c'est pas du tout abordé ou c'est complètement survolé. Mmh. Je crois qu'on l'évoque éventuellement, mais
ouais,
on en parle
peut-être, ouais.
Pas beaucoup plus que ça. Question suivante, la chanson qui te booste quand tu as un coup de mou.
C'est Single Lady de Beyoncé.
elle est particulièrement motivante.
Elle est
motivante. Géniale. C'est vrai. Tout à fait d'accord. question suivante, la plus belle phrase qu'un patient t'ait dite.
Alors, moi, ce qui m'est venu, c'est pas forcément la phrase d'un patient, mais c'est la phrase d'une fille d'un résident. Son papa venait de décéder et elle est venue me voir et elle m'a dit « Surtout, ne changez pas, restez vous-même. » Donc voilà, et alors il y a peut-être un patient qui me l'a déjà dit aussi, mais en tout cas là moi je reste, c'est quelque chose d'assez récent, donc je reste là-dessus et voilà, donc c'est, voilà, pour moi c'est quelque chose d'hyper positif et ça me conforte dans l'idée de, voilà, il faut que je reste moi-même, que je continue à avancer comme je suis et puis voilà.
Surtout dans une période de deuil, c'est beau d'avoir la capacité de dire ça.
Exactement. C'est d'autant plus fort, oui, ça c'est
ça. Sans transition, à chaque fois que je pose cette question, je me dis si on me dit quelque chose de très touchant derrière, du coup, c'est le delta est assez énorme. Mais donc, ton meilleur fou rire au travail.
Il y en a eu beaucoup, mais il y en a eu un qui était. Donc, je m'occupais d'une dame, je faisais une évaluation pour savoir son degré d'autonomie. Et elle me demandait mon prénom, donc j'essaie de lui faire entendre, sauf qu'elle était très très sourde. Et donc je lui dis Sixtine, et elle m'a appelée Janine toute l'évaluation de la toilette. Donc voilà, et je disais bon ben voilà, donc je vais me faire renommer, et puis c'est resté, c'est ancré, et on en rit. Donc voilà, c'était un moment assez drôle, et voilà, et donc je m'appelle Janine.
Et puis après, t'oses plus rien dire, tu dis bon oui, ben maintenant oui. Qu'elle l'a retenu, bon ben écoute,
voilà,
hein.
Bon, voilà, c'est ancré, c'est comme ça.
On va faire avec Janine. Et la dernière question, un titre de film qui résume ta carrière ?
C'est mon film préféré, c'est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Donc voilà, ouais, cette jeune femme qui prend soin des autres, mais de façon un peu tout en discrétion, en retrait, qui fait plein de bonnes choses pour tout le monde. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de faire, et je pense que voilà, c'est ce que j'arrive plus ou moins à faire.
qui met un peu de magie dans le quotidien des autres, sans que ça se remarque vraiment. C'est mon film préféré aussi, tu vois.
Ah ben voilà.
Bon, bah super, un grand merci, Sixtine.
Ben, merci à toi, c'est chouette de pouvoir évoquer tout ça.
Ouais, c'est top. On va en discuter un peu en off, mais peut-être si on arrive à mettre des références, du, voilà, par exemple, ta formation bien précise et ce genre de choses en description de l'épisode, on le fera pour les gens qui ont besoin de petites précisions et voilà, qui ont peut-être des envies d'évolution de carrière, on ne sait jamais.
Exactement.
Je suis sûre que ça sera utile. Merci beaucoup, Sixtine.
Merci à toi.
À bientôt.
À bientôt.
Merci beaucoup à Sixtine pour ce témoignage passionnant. Si vous envisagez vous aussi une formation d'IDEC, je vous glisse en description de cet épisode le lien vers la formation Croix-Rouge suivie par Sixtine. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.